De l'amour, ces pannes d'amour qui se passent dans leur vie et nous et regardent avec envie tous ces couples qui vivent 30, 40, 50 années de mariage. Ils admirent évidemment cette longévité. Parfois, on a peut-être une image un peu trop idyllique de ces longues relations de mariage et on se fait parfois un peu des idées. Ça me rappelle cette anecdote après. Un couple qui fête ses 50 ans de mariage. Et puis après cet anniversaire, le mari, Lucien, décède. Et puis, bon, il va au paradis. Et quelques mois plus tard, c'est son épouse, Françoise, qui décède à son tour. Alors, dès qu'elle arrive au paradis, elle cherche évidemment après son mari. Et puis, elle le trouve. Ah, Lucien, je t'ai retrouvé. Tu m'as tellement manqué. Je suis tellement contente de te voir. Alors, il y a son mari qui lui dit, ah, Françoise, ne m'énerve pas. Hein. Le pasteur a été très clair le jour de notre mariage. Il a bien dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bon, il paraît que dans le mariage, ce sont les 50 premières années les plus difficiles. Donc. J'ai goûté chaque année de nos 34 ans de mariage, je voudrais le dire, et mon épouse y est évidemment pour beaucoup. Aborder le sujet du mal d'amour, c'est quelque chose de délicat, parce qu'il laisse toujours des blessures difficiles à guérir. Le divorce aujourd'hui s'est banalisé, mais on ne peut jamais parler, en ce qui concerne le divorce, de divorce réussi. Il n'y a pas de divorce réussi, il y a peut-être des divorces assumés, mais on ne peut pas parler de réussite en ce qui concerne le divorce, parce que c'est toujours le signe, le résultat d'un échec. Nous le disions hier lors de notre séminaire sur la famille, le plus grand fléau de notre époque n'est pas la crise économique, le chômage, le terrorisme ou le réchauffement climatique. Le plus grand fléau de notre époque, c'est notre incapacité à aimer. C'est la plus grande menace sur notre société, sur l'humanité. Tout au moins à aimer dans la durée. Mais ce qui revient au même, parce que si on se réfère à la véritable définition de l'amour, et nous l'avons lu tout à l'heure, elle était affichée là, je ne sais pas si vous y avez fait attention, donc dans le texte que Michel a affiché, il est bien dit que aimer, c'est aimer dans la durée, parce qu'il est écrit dans la Bible, l'amour ne meurt jamais. Alors comment se fait-il que les gens se disent « Ah mais moi je n'aime plus, nous n'avons plus de sentiments amoureux, nous n'aimons plus ». Ça veut dire qu'aujourd'hui ce qu'on appelle amour ne correspond pas à la définition que la Bible donne de l'amour. L'amour aujourd'hui n'a plus rien de définitif, de permanent, de durable. La durée de vie de l'amour est de plus en plus courte. On dirait que l'homme a mis une date de péremption sur l'amour aujourd'hui et cet amour se réduit. Et on est donc en droit de se poser la question de savoir si ce qu'on voit aujourd'hui est véritablement de l'amour. Et j'aimerais ce matin dédier notre réflexion à tous les blessés de l'amour, à ceux qui ont vécu des déchirures, des ruptures, qui ont laissé de profondes blessures au fond de leur cœur, de ceux qui ont entamé une relation sentimentale ou conjugale et qui, après un an, deux ans, cinq ans, dix ans, plus, ont dû faire le constat de l'échec, le deuil de leur relation. J'aimerais m'adresser aux naufragés de l'amour, à ceux qui ne croient plus peut-être en l'amour, pour leur dire que l'amour est possible. Il existe un espoir et surtout il existe quelqu'un qui peut changer votre vie. Non seulement transformer cette vision cynique, désabusée de l'amour d'aujourd'hui, mais faire naître en vous un amour qui ne tarit pas, un amour qui ne meurt jamais, l'amour inconditionnel, l'amour qui trouve sa source en Dieu. Et quand nous regardons autour de nous, c'est vrai que le mal d'amour est répandu et que les hôpitaux, les cimetières de l'amour sont pleins sont saturés de gens, les cimetières de l'amour déçu. En France, par exemple, quand on regarde les chiffres, en 2011, 45% des mariages, pratiquement 1 sur 2, se terminaient par un divorce. On estime qu'il y a, en 2011, 1 600 000 enfants qui vivent dans une famille recomposée, qu'il y a 590 000 personnes qui cohabitent avec les enfants de leurs nouveaux conjoints, et que ces familles recomposées représentent pratiquement 8% des familles françaises. D'après le ministère de la Justice, le nombre de divorces prononcés après moins de 3 ans de mariage, c'est quand même incroyable, n'est-ce pas, a augmenté de 50% entre 1998 et 2003. De 72 à 2005, le nombre de divorces n'a cessé de croître en France. Depuis 2005, il a légèrement décru pour se stabiliser au chiffre que nous avons dit tout à l'heure, donc pratiquement un mariage, un divorce pour deux mariages. Et en Belgique, me direz-vous, ben c'est encore pire. Si on a cette moyenne d'un divorce pour deux mariages dans l'Union européenne, en Belgique, c'est pire, c'est trois divorces pour quatre mariages. Trois mariages sur quatre se terminent par un divorce. Et plus d'un enfant belge sur 10 est élevé dans une famille recomposée. Et bien sûr, tous ces chiffres ne tiennent pas compte des unions hors mariage qui sont par nature beaucoup plus instables, beaucoup plus volatiles. Le mariage est évidemment la première victime de cette lame de fond que nous avons connue avec mai 68 et sa révolution sexuelle. Nous sommes aujourd'hui mariés pour le meilleur, mais pas pour le pire. Dès que le pire arrive, c'est terminé, n'est-ce pas? On est marié jusqu'à ce que la baisse de désir, l'ennui, l'habitude, l'envie de changement nous séparent. Or, on constate, et c'est paradoxal, que là, si vous demandez aux gens la chose à laquelle ils aspirent le plus, et on fait régulièrement ce genre de sondage, on constate que c'est l'amour. C'est l'aspiration numéro un de chaque être humain. Mais le problème, si nous aspirons tous à l'amour, nous n'arrivons pas à le réaliser, à le vivre, à le concrétiser. Nous ne voulons aimer, mais nous ne savons plus. Et surmonter la difficulté d'aimer demeure aujourd'hui le problème majeur dans notre société, aussi bien entre les individus qu'entre les peuples. Pourtant, si nous laissons Dieu nous parler, nous verrons que sur la question de l'amour, il en connaît un bout. Il connaît d'ailleurs tout et il a montré en Jésus-Christ toute l'étendue de ses possibilités. Et vous verrez qu'elles sont infinies. Jésus-Christ a ce pouvoir de guérir les blessures du manque d'amour. Il est même le seul à pouvoir le faire. Il peut vous aider à construire un amour durable. Mieux encore, il peut répandre dans votre cœur un amour tel que cet amour va déborder et vous donner la force d'aimer à votre tour. C'est un amour qui répare et c'est un amour qui donne la force d'aimer. Tout à l'heure, votre pasteur Michel, dans sa prière, a lu un verset que nous relions tout à l'heure qui commence par ceci. « Dieu a tellement aimé, nous dit Jésus. » Et juste après avoir affirmé cela, il nous a montré de quelle nature était cet amour. Lors d'une rencontre avec un religieux, Nicodème, et puis un peu plus tard, il a rencontré une autre personne, une femme. Et c'est cette entrevue que je vous propose de voir ensemble. Parce que vous allez voir que cette femme rencontrée par Jésus présente des traits communs avec les gens d'aujourd'hui. Elle va vous paraître très contemporaine. Et je vous invite à lire ce récit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4. On va lire les versets 4 à 30 et 39 à 42. Évangile de Jean, chapitre 4, les versets 4 à 30 et les versets 39 à 42. Comme Jésus devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Joseph avait donné à son que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : Donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Le Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. » En cela, tu as dit la vérité. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Pourtant aucun ne dit, « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Et un peu plus loin, au verset 39, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux et il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et ils disaient à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le sauveur du monde. Alors voilà une rencontre tout à fait étonnante, pour ne pas dire détonnante. C'est vraiment le choc des extrêmes. Cette rencontre, elle n'aurait jamais dû se passer. C'est une anomalie. Tout sépare ces deux personnes, Jésus et cette femme samaritaine, qui ne se connaissaient pas avant de se rencontrer. Et il faut savoir que les Juifs et les Samaritains sont ennemis depuis des siècles. Ils ne se parlent pas. C'est vraiment parce qu'ils avaient faim, qu'il fallait manger, qu'ils sont allés chercher de la nourriture dans cette région-là. Mais sinon, ils n'ont aucune relation, les Juifs et les Samaritains. Leurs racines, leur vécu, leur religion, tout est différent entre Jésus et cette femme. Et Jésus est en route pour la Galilée, la région où il a grandi, et ses disciples l'accompagnent comme ils en ont l'habitude. Et après de longues heures de marche, il n'y avait pas encore les moyens de transport actuels, sous le soleil de plomb, de ces régions, ses jambes refusent de le porter, il est fatigué, d'ailleurs le texte nous le dit, il est assoiffé, il est éreinté, et voilà qu'il s'arrête au puits de Jacob, à un jet de pierre du village de Sichar, qui est en fait la ville de Naplouse, en Cisjordanie, aujourd'hui. Et Jésus s'assied, là, sur la margelle du puits, et il envoie ses disciples au ravitaillement. Et tout laisse à penser que Jésus est là par hasard, que cette rencontre s'est passée tout à fait fortuitement entre Jésus et cette femme. Mais le lieu, l'heure, l'événement, et même le fait d'envoyer ses disciples chercher à manger n'est pas dû au hasard. Parce que Jésus se prépare pour une rencontre. Et il se prépare pour rencontrer cette femme. C'est une rencontre décisive. Il est venu précisément là, à ce moment, pour rencontrer cette femme. Nos rencontres avec Dieu ne sont jamais le fruit du hasard. C'est toujours parce que Dieu veut nous rencontrer en Jésus-Christ que nous sommes placés face à lui à un moment donné sur notre route. Dieu est toujours prêt à nous rencontrer. Mais vous, chers amis, est-ce que vous êtes prêts pour cette rencontre ? Ce que l'Évangile nous dit de cette femme nous en apprend assez pour brosser son portrait. Apparemment, nous voyons que selon les critères d'aujourd'hui, c'est une femme entre guillemets libérée. Elle a eu 5 maris. Et elle vit avec un autre compagnon, un nouveau compagnon. Et pour l'époque, c'était quand même une sorte de record. Aujourd'hui, c'est évidemment tout à fait dans la norme. Mais nous avions, Nous avons donc affaire à une femme qui était en avance sur son temps et tout à fait en phase avec le nôtre. Et c'est ça qui donne à notre récit de l'intérêt. On ne peut pas dire que ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Et assez bizarrement, cette femme, aux amours multiples, est extrêmement seule. Et sa présence au puits pour venir chercher de l'eau à 7h de midi en est la preuve. Pourquoi est-ce qu'elle vient puiser de l'eau aux heures les plus chaudes? Pourquoi est-ce qu'elle sort alors qu'à ces heures-là, personne ne sort? Généralement, c'est le soir qu'on venait puiser de l'eau après la chaleur du jour et les femmes venaient toutes ensemble au puits. C'est un moment de convivialité. Peut-être que certains de ses concitoyens envient un petit peu son style de vie décoincé, mais beaucoup d'autres la désapprouvent. Et c'est pour ça qu'elle est seule. Elle est mise au banc. Elle est considérée comme exclue. C'est une femme légère, aux mœurs dissolues. Elle est cataloguée comme infréquentable. Alors vous allez me dire, heureusement, c'est une époque tout à fait révolue. Aujourd'hui, on ne juge pas les gens comme ça. Et pourtant, chers amis, le paradoxe de notre époque, c'est que la libération des mœurs n'a pas résolu le problème de la solitude. Au contraire, la société actuelle qui se proclame sexuellement libérée, où plus aucun comportement n'est caractérisé de déviant, où la tolérance est érigée en vertu cardinale, où l'anormalité avec L' est devenue la normalité, LA, est aussi une machine à fabriquer la solitude. C'est le paradoxe, n'est-ce pas? Les familles monoparentales, les célibataires, on invente des nouveaux mots pour ces nouvelles situations de famille, les célibataires, les célibatants, toutes ces familles, les familles recomposées, tout cela sont légions. Mais les familles monoparentales, surtout dans les grandes villes, c'est un fléau. Dans certaines villes, aux États-Unis, même à Paris, j'ai lu les statistiques, il y a plus de 50% de familles qui sont monoparentales. Et la plupart du temps, c'est une femme qui élève seule ses enfants. La solitude n'est jamais un choix de vie. Jamais. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était seul, qui n'en souffrait pas, qui disait « moi, je suis très content d'être seul ». Ce n'est jamais un choix de vie. C'est une situation imposée, subie. Et c'est un lourd tribut à payer à la libération des mœurs. Alors la Samaritaine, cette femme moderne qui était en avance sur son temps, ne serait peut-être plus montrée du doigt aujourd'hui. Mais elle serait tout aussi seule. Et la voici qui s'approche de Jésus. Et en le voyant, elle a un mouvement de recul. Comment? Un juif ici, mais qu'est-ce qu'il fait là? En territoire ennemi? Et puis voilà qu'il m'adresse la parole, et puis voilà qu'il me demande à boire. Elle en laisse presque tomber sa cruche. Il y a de quoi? La demande de Jésus bouscule tous les usages. Il n'y a pas seulement le fait qu'il est juif et qu'elle soit samaritaine. C'est un homme, et c'est une femme, et c'était contraire aux usages. D'ailleurs, les disciples s'étonnent qu'il parle avec une femme, c'était pas très convenant. Elle n'est pas accompagnée, si elle est là à cette heure chaude de la journée, on sait très bien qu'elle n'est pas très appréciée, donc sa présence dit ce qu'elle est. Et puis, Jésus, on voit bien, c'est quand même un maître, c'est quand même un rabbi, alors pourquoi est-ce qu'il l'aborde? Pourquoi est-ce qu'il parle à cette femme? Pourquoi même est-ce qu'il lui demande un service? Qu'est-ce qu'il lui veut? Et je crois que la réaction de cette femme illustre tous les préjugés que nous avons vis-à-vis de l'Évangile. Lorsqu'on nous présente l'Évangile, lorsqu'on nous présente Jésus-Christ, nous avons une sorte de mouvement de recul. Alors que Jésus n'a aucun a priori vis-à-vis de nous. Nous avons une réaction de rejet, parce que nous rejetons toujours, nous avons toujours peur de ce que nous ne connaissons pas. Et c'est ce que Jésus dit à cette femme, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, quel cadeau Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et je crois que l'un des problèmes vis-à-vis de la foi, vis-à-vis de Jésus-Christ, c'est que les gens disent « je ne veux pas croire en lui », mais les gens ne savent pas qui il est. Si tu savais quel don Dieu veut te faire, qui est celui qui te demande à boire? Mais c'est toi qui serais venu vers lui. On ne comprend pas que les bras de Jésus sont ouverts. Ils sont assez largement ouverts pour accueillir toute l'humanité et en même temps, il est prêt à accueillir chacun en particulier. Et c'est ça qui est extraordinaire. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Il est infini, mais il est aussi tellement personnalisé. Il s'adresse à chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas une poussière perdue dans l'immensité du cosmos pour Dieu. Nous avons de la valeur pour Dieu qui nous a créés, qui nous aime personnellement. C'est important de le savoir. Jésus a dit ceci, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors, chers amis, vous qui vous dites, « Oui, mais Dieu ne s'occupe pas de moi. Dieu ne s'occupe pas de mes problèmes. » Alors, est-ce que vous êtes allé à Jésus-Christ? Ben non. Alors, vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas dire qu'il ne s'occupe pas de vous. Il a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Le Christ se soucie de tous ceux qui, comme la Samaritaine, même n'ont pas même conscience qu'il peut les aider. Vous savez, nous sommes souvent trop remplis de nous-mêmes pour réaliser le vide qui attend nous. C'est une constante d'aujourd'hui. Et comme vous, peut-être, cette femme qui portait un fardeau bien plus lourd que sa cruche ne connaît pas Jésus. Et dans un premier temps, elle veut esquiver le contact. Elle n'a pas envie de se livrer. Elle veut éviter les sujets embarrassants. Elle veut éviter d'ouvrir son cœur. Nous voyons qu'avec beaucoup de subtilité, Jésus l'amène justement à parler de sa vie. Et très souvent, nous évitons, je crois, de nous poser les vraies questions aujourd'hui. Vous savez, on évite les sujets embarrassants, les sujets qui nous touchent personnellement, parce que ça nous a blessés, puis on n'a pas envie de se livrer. On ne veut pas parler des questions qui pourraient nous faire remonter à la surface de notre esprit le désarroi de notre âme. Mais Jésus, lui, ne se laisse pas désarçonner par cette femme qui est un peu abrupte dans son contact. Il veut entrer en contact avec cette femme. Et il n'hésite pas à briser, à franchir toutes les barrières, tous les préjugés que cette femme met entre eux. Parce que rien n'arrête Jésus-Christ dans sa détermination à nous rencontrer. C'est ça qui est extraordinaire. Aucun obstacle n'est infranchissable pour Dieu pour vous rencontrer. Pensez-y. Il nous en a donné la preuve. Lorsque Dieu s'est abaissé pour prendre la condition humaine, quels obstacles il a franchi? Il a franchi la distance infinie qui sépare le ciel de la terre. Il a franchi la barrière de l'espace et du temps. Il est allé encore plus loin pour pouvoir nous rejoindre. Nous allons le voir parce que c'est à un endroit bien précis qui nous a vraiment rejoints. Alors, chers amis, avant d'abandonner vos clichés sur Dieu et sur Jésus-Christ, acceptez de le voir tel qu'il est. Une personne admirable. Parfaite en tout, merveilleuse. L'Évangile explique que c'est Jésus-Christ, son Fils unique, qui nous permet de voir qui est Dieu, qui nous a fait connaître Dieu. Si vous demandez qui est Dieu, vous avez peut-être une représentation de Dieu, peut-être qu'elle est fausse. Si vous voulez avoir une juste représentation de qui est Dieu, regardez Jésus-Christ, lisez les Évangiles. Jésus-Christ nous révèle la véritable nature de Dieu qui est son Père, qui veut devenir votre Père. Et l'autre prénom qu'on associe à Jésus, c'est Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. Ça veut dire Dieu proche de nous. Dieu proche de nous. Tellement proche que Jésus a tout connu de notre humanité, tout de notre condition humaine, sauf une chose. Et cette chose, c'est le péché. Il a été tenté comme nous en toute chose, même la tentation. Vous savez, vous êtes peut-être assailli par toutes sortes de tentations, soyez encouragés par le fait que Jésus a été tenté en toutes choses, nous dit la Bible, comme nous. Lui, à la différence, il n'a pas commis le péché, mais il a été tenté. Il a subi le mal qu'on lui a infligé, mais il n'a pas connu le mal comme nous le connaissons, c'est-à-dire de l'intérieur. Parce que la Bible dit que le mal, le péché, c'est dans notre nature, elle fait partie de notre nature. Jésus a été affecté par le mal autour de lui, mais il n'en a pas été infecté. Il a été suffisamment proche de nous pour comprendre ce que nous vivons, mais il a gardé ses distances avec ce mal qui empoisonne nos vies. Et heureusement d'ailleurs, ou sinon, comment aurait-il pu vaincre le mal? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour nous s'il avait été incapable de vaincre le mal, n'est-ce pas? Et la Samaritaine, malgré ses blessures, malgré sa vie sentimentale délabrée, toute l'amertume qu'elle a accumulée, ouais, 5 mariages, 5 échecs, elle accepte que Jésus lui parle. Et mieux, elle accepte même de lui parler. Elle accepte d'entrer en communication, en relation. Et vous savez, on rencontre beaucoup de gens aujourd'hui qui, après plusieurs échecs sentimentaux, ont peur de s'engager. peur, encore une fois, de vivre les blessures qu'ils ont connues. Et tout cela a altéré leur capacité de croire aux relations vraies, durables. Et peut-être que vous vous dites, mais que peut faire pour moi Jésus de Nazareth, qui est entré dans l'histoire comme un météore il y a 2000 ans? Reconnaissez justement qu'il a marqué l'histoire comme personne, ni avant lui, ni après lui. D'ailleurs, nous continuons à mesurer le temps, l'histoire aujourd'hui, entre avant et après lui. Eh bien, c'est exactement ce qu'il veut faire dans votre vie. Il veut marquer un avant et un après pour changer votre présent et pour vous donner un avenir éternel. C'est exactement cela, pour que vous puissiez dire, il y avait un autrefois, il y a un maintenant totalement différent. Voilà ce qu'il veut faire dans votre vie. Mais pour que le dialogue s'instaure vraiment entre Jésus et cette femme, il faut qu'elle accepte de laisser tomber son masque. Parce qu'elle ne répond pas franchement d'abord aux questions de Jésus. Vous savez, la vie moderne, c'est un carnaval perpétuel. Nous portons tous des masques en permanence. Et voilà pourquoi les blessés de l'amour ont tellement de mal à se confier. Vous savez, vous confiez à quelqu'un, et puis vous rendez compte que, hop, il parle de ce que vous avez confié dans l'intimité à quelqu'un d'autre, si c'est des collègues, tout le monde est au courant, etc. On a tellement de mal, n'est-ce pas, à se confier à des gens qui acceptent de nous écouter, de compatir sincèrement. Parce que plutôt que de faire face au vide collectif, aujourd'hui, alors on utilise toutes sortes d'artifices, on dédramatise, oh, ça va passer. Ouais. Alors on culpabilise, oh, tu sais, ça arrive à tout le monde, voilà. Ou bien on normalise aujourd'hui toutes les unions alternatives au mariage, ou bien on débaptise, on change les mots, on pense qu'en changeant les mots ça va changer leur portée, n'est-ce pas, les concubins sont devenus des cohabitants, etc. Et on maquille comme ça, on met du cosmétique sur tout ça, avec une bonne couche de positivisme, parce que nous le valons bien, n'est-ce pas. Et on recouvre son visage du masque de la bonne humeur. Mais on ne parle pas de la misère affective, sociale, qui découle de toutes ces relations sentimentales intermittentes. On vit avec, on se fait une raison. Eh bien, chers amis, Jésus ne veut pas que nous nous fassions une raison de cela, que nous vivions avec ça, mais que nous déposions cela, que nous repartions pour un nouveau départ. Voilà ce qu'il propose. Et Jésus refuse de se laisser piéger dans une conversation superficielle avec cette femme, parce que derrière le masque de la Samaritaine, il voit un cœur qui souffre. Il voit le besoin profond de cette femme. Et il ne pointe pas vers cette femme un doigt accusateur. C'est extraordinaire. Il lui tend la main. C'est tout à fait différent. Qui se préoccupe de la souffrance liée à nos styles de vie? Aujourd'hui, l'adultère, le divorce ne devraient plus nous culpabiliser puisqu'ils sont admis dans la société. Peut-être qu'ils sont admis légalement, pénalement, socialement, mais la souffrance est toujours là. Solitude, rejet, dévalorisation, mal-être, non-sens, dépression, autant de sentiments toxiques qu'on ne va pas disparaître en changeant le sens des mots. Peut-être que certains divorcés ne se sentent plus coupables, mais ils ne souffrent pas moins de leur séparation. Le mal n'est pas seulement mal parce qu'il culpabilise, le mal est mal parce qu'il fait mal. Et cette souffrance tenace, résistante, est la preuve qu'il ne suffit pas de changer le nom des choses pour modifier leur impact, ni d'appeler le mal bien, et inversement, pour libérer les consciences aujourd'hui. Un de mes amis, à un moment donné, s'est embarqué dans une aventure extra-conjugale. Heureusement, après quelque temps, il est revenu vers son épouse, mais malheureusement, ce n'est pas souvent le cas, ni toujours le cas. Et nous avons eu plusieurs entretiens, et j'étais consterné par l'aveuglement dont il faisait preuve, en disant, mais ça ne peut pas être mal, puisque nous nous aimons. Sa passion lui cachait complètement la souffrance qu'il occasionnait à son épouse et à ses enfants. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a voulu pour nous et pour eux le meilleur, ce qu'il y a de meilleur, la qualité supérieure. Il a donné l'amour, il a donné le mariage, il a donné la sexualité dans cet ordre-là. Mais l'homme et la femme ont négligé ces dons de Dieu. Et ils ont préféré suivre leur propre chemin, décider eux-mêmes ce qui est bien et mal. Il faut rappeler cette vérité centrale de la Bible. Dieu est amour. Dieu nous aime et Dieu nous respecte en tant que personne. Il veut établir une relation avec nous. Non, c'est pas une relation contrainte. C'est pas une relation forcée. Vous savez, l'amour, c'est le dernier refuge de la liberté. Et voilà pourquoi Dieu nous laisse libres. C'est parce qu'il nous aime. Il ne s'impose jamais. Dieu ne s'impose jamais dans notre vie. Il veut être aimé de nous, il nous aime. Et vous savez, le principe de l'amour, c'est pour bâtir une relation, il faut la réciprocité. S'il n'y a pas ça, on ne pourra jamais établir de relation amoureuse, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu nous a créés libres parce qu'il veut être aimé librement de nous, au risque que nous choisissions de ne pas l'aimer, au risque de récolter peut-être par ce choix la souffrance et la mort. Mais Dieu a créé l'homme libre, mais nous avons voulu plus. Nous avons voulu devenir autonomes, parce que nous croyons savoir mieux que Dieu ce qui est bon ou mauvais pour nous. Et la Bible dit que c'est ça, le péché, c'est désobéir à la loi de Dieu pour suivre nos propres lois. Mais ce qu'Adam et Ève ne savaient pas, c'est que l'être humain n'a pas les moyens de vivre par lui-même. Vous savez, la source de la vie est en Dieu comme la source de l'amour. Dès qu'on se déconnecte de la source de l'amour, c'est un peu... Oui, on peut fonctionner un petit peu parce que nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu. Il reste en nous un peu de l'image de Dieu. Mais c'est comme si, vous savez, au lieu d'être connecté à une source d'alimentation électrique, hop, nous nous détachons de cette source d'alimentation, mais nous pouvons toujours fonctionner parce que nous avons des piles. Oui, ça peut fonctionner un certain temps, mais à un moment donné, ces piles s'épuisent, ces batteries s'épuisent. Hein? Et c'est ce que Jésus s'efforce d'expliquer à la Samaritaine. Elle ne semble pas comprendre jusqu'à ce que Jésus lui parle concrètement des effets du péché dans sa vie. Hein? Le péché a toujours des conséquences. Lorsque nous désobéissons aux instructions de Dieu, ben, ce n'est pas neutre. Le mal non seulement produit le mal, mais il produit le malheur. Il produit le malheur. Et il cause aujourd'hui, au travers des familles, des couples brisés, un désastre effroyable. Et au travers de chaque personne, ça s'infiltre dans toutes les composantes de la société. La Samaritaine, en fait, n'a pas conscience de la vraie nature de son problème. Elle subit, c'est vrai, les effets de son péché, mais elle en souffre. Comme nous aussi, nous souffrons de l'arrière-goût du péché, peut-être après en avoir goûté la douceur. Vous savez, le péché se présente toujours à nous comme quelque chose d'attirant, n'est-ce pas? Et la première impression, c'est il y a du plaisir, il y a quelque chose qui nous fait du bien attaché à ça. Et puis, il y a un arrière-goût, et qui est pire encore que la satisfaction que ça nous a donnée. Jésus explique à cette femme que la source à laquelle elle s'abreuve ne peut pas la satisfaire. Donc, elle court après l'amour. Elle court après l'amour, elle ne le trouve pas. Sac Marie et un nouveau compagnon. Et la démarche de la Samaritaine qui chaque jour vient remplir sa cruche, ben nous projette l'image de ce besoin jamais assouvi de nouvelles sensations, de nouvelles expériences, de nouveaux partenaires qu'il faut sans arrêt renouveler et qui ne remplit jamais le vide de notre cœur. Et finalement, et en définitive, on se retrouve tout seul. Et c'est ce que lui dit Jésus, quiconque boit de cette eau-là aura encore soif. Ce vide, cette mort du cœur causée par le péché n'est rien d'autre que la mort spirituelle dont parle l'apôtre Paul lorsqu'il écrit aux Éphésiens « Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. » Et il poursuit « Nous étions nous aussi comme eux, nous vivions selon les désirs de notre nature, nous faisions ce que voulait notre corps et notre esprit. » C'est ce que les gens font aujourd'hui. Je suis simplement mes aspirations, mes pulsions, mes instincts, etc. C'est la seule règle de vie. Nous ne savons pas mettre un frein à nos appétits. L'humoriste Guy Bedos a stigmatisé récemment à la télévision la société de consommation, dit-il, qui est devenue la société de convoitise. Et c'est bien vu. C'est ça, la société dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas? C'est pas la société de consommation, c'est la société de convoitise. Et Jésus va se placer en rupture avec l'expérience de la Samaritaine et avec sa conception, qui est la conception actuelle de l'amour. Parce que l'amour, c'est bien plus que la satisfaction passagère de deux égoïsmes. C'est pas ça l'amour. Jésus dévoile la véritable nature de l'amour qui est don de Dieu. Il dit, si tu savais quel cadeau, quel don Dieu veut te faire. Ça c'est l'amour, c'est le don de Dieu. Dieu ne veut pas vous convaincre qu'il a raison. Il ne veut pas vous convaincre par des arguments. Il ne veut pas seulement vous donner quelque chose. Il veut vous montrer ce qu'est l'amour. Et pour cela, il veut se donner. Et c'est lorsqu'il se donne que vous allez comprendre ce qu'est l'amour. Parce qu'il dit, si tu savais quel don Dieu veut te faire, et alors quand on nous fait un cadeau, on est toujours prêt à le recevoir. Vous savez, hein, donc on veut ce que Dieu nous donne, mais on ne veut pas ce qu'il est. Il dit, si tu savais quel don Dieu veut te faire, et si tu savais qui est celui qui te demande à boire. C'est là la clé, n'est-ce pas? Pas seulement ce que Dieu donne, mais ce qu'il est. Parce que ce n'est qu'en recevant Jésus-Christ que nous recevons l'amour. La Bible dit « Dieu est amour ». L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 1 Jean 4, 8 et 9. L'amour de Dieu est à l'image de celui qui en est la source. C'est un amour qui répond à nos vrais besoins. Et cette femme, comme nous avons besoin de cet amour-là qui étanche, qui satisfait, un amour qui nous comble. Nous avons besoin d'être aimés de cette façon-là, parce qu'il n'y a rien de plus structurant, il n'y a rien de plus équilibrant que d'être aimé de cette façon-là. L'amour que Jésus nous donne, c'est un amour jaillissant, c'est pas un amour égoïste à vivre pour soi, c'est une source qu'on ne peut contenir. Vous savez, si vous ouvrez un robinet, vous essayez de mettre votre doigt, vous ne pouvez pas résister à la pression. Mais c'est un peu ça qui se passe quand l'amour de Dieu rentre dans notre corps. C'est une source. Ma coupe déborde, dit le roi David dans le psaume 23 que nous avons lu. Ma coupe déborde, c'est un amour qui déborde. Et Jésus lui dit, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La pression de l'amour de Jésus-Christ est beaucoup trop forte pour que nous le gardions pour nous. Alors comment expliquer que vous ne viviez pas ce type d'amour? Mais tout simplement parce que vous n'êtes pas raccordé à Dieu en Jésus-Christ, à la source de l'amour, et votre capacité d'aimer est asséchée. C'est une autre façon d'expliquer le péché. Cette autre façon, c'est, pour prendre une autre image que celle de tout à l'heure, bien, au lieu de rester connecté à la source de l'amour, bien, nous avons pris peut-être des bidons avec nous, et puis à un moment donné, nous sommes retrouvés sans rien. Au lieu de vous abreuver à la fontaine intarissable de l'amour, vous avez peut-être préféré creuser vos puits. Cherchez en vous-même de nouvelles normes pour l'amour, comme cette femme qui venait tous les jours puiser de l'eau. Et par la bouche du prophète Jérémie, Dieu fait un constat des plus justes. Il dit, mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive. Et il s'est creusé des citernes fendues qui ne retiennent pas l'eau. Voilà notre problème. Nous sommes dans l'incapacité de retenir l'amour parce que nous ne sommes plus connectés à l'amour véritable. Et la Samaritaine, qui est là avec son cœur en lambeaux, avait besoin de connaître le don de Dieu. Elle avait besoin de connaître celui qui l'incarne. Elle avait besoin de reconnaître son échec, son manque, son vide, avant d'aller plus loin. Vous savez, un médecin ne peut rien faire pour nous, pour un malade, avant que ce malade ne reconnaisse qu'il est malade et qu'il accepte de se faire soigner. Et après avoir engagé le dialogue avec Jésus, elle prend un risque. Elle prend le risque de mettre sa vie à nu devant Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes prêt à reconnaître votre besoin d'amour? Est-ce que vous êtes prêt à reconnaître que votre besoin d'amour est avant tout un besoin de Jésus-Christ et à laisser Jésus-Christ vous guider vers lui? Est-ce que vous êtes prêt à lui demander cette eau vive, comme Jésus le dit à cette femme? Dans la faillite d'un couple, les dégâts sont toujours immenses, importants, que ce soit les dégâts directs ou les dégâts collatéraux, on pense notamment aux enfants. Le tort causé est immense et les conséquences incalculables. Tout péché, vous voyez, vous sème une graine mortelle qui est la mort de l'amour, la mort des relations, la mort de l'estime de soi, la mort de l'estime des autres, etc. On peut cependant ramener toutes les causes premières de la rupture du couple à une seule. À un moment donné, l'un des deux, peut-être les deux, ont cessé d'aimer. Le reproche que Dieu nous fait n'est pas d'ordre moral ou éthique. Il nous reproche d'avoir manqué à notre obligation d'aimer. Et vous savez, tous les commandements se résument, a dit Jésus, en deux commandements tout simples. Tu aimeras, ils commencent tous par tu aimeras. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la désobéir à Dieu, c'est manquer à notre obligation d'aimer. Nos cruches sont vides. Nos cruches sont vides et nous sommes séparés de Dieu, nous sommes déconnectés de la source. Alors si votre couple va mal, ben cessez de rejeter la faute sur l'autre. Bien sûr, chacun a des torts, c'est vrai, mais si vous commenciez par reconnaître vos torts, si vous admettiez que c'est vous qui devez changer, confesser, reconnaître son péché devant Dieu, être d'accord avec lui sur la question, c'est la première étape qui mène au pardon. La Bible dit, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Est-ce qu'il y a des conditions à ça? Non. Reconnaître sincèrement son péché devant Dieu. 1 Jean 1,9. Il n'y a que le pardon de Dieu qui peut enlever tout ce mal accumulé, cette culpabilité, restaurer notre image dévastée par la honte, peut-être, nous donner cette paix intérieure, nous retrouver la valeur que nous avons. Vous savez, on est tellement dévalorisé quand on est victime d'une rupture. Il y a, pouf, notre image de soi, elle s'effondre. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut nous rendre cette valeur que nous avons. Comme la Samaritaine, est-ce que vous voulez laisser faire Jésus la lumière sur vos fautes et prendre un nouveau départ? Ou peut-être que vous allez continuer à empiler les aventures, les expériences, jusqu'à ce que votre puits de sentiments soit vide? Et là, la Samaritaine, elle est face à un choix. Soit elle fait confiance à Jésus, soit elle ne lui fait pas confiance. Elle continue sa vie comme avant. Parce que la foi, c'est ça, c'est un choix, c'est une décision à prendre. La foi, c'est pas une évidence, c'est une prise de risque. Chaque fois que vous faites confiance à quelqu'un, vous prenez un risque, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui permet à Jésus d'être aussi sûr de ce qu'il promet? Et on va terminer par ce point qui est le plus important. Jésus-Christ n'est pas qu'un beau parleur. Il a mis l'amour en action. Il est passé de la parole aux actes. Parcourez les évangiles, vous verrez Jésus nourrir, vous le verrez guérir, vous le verrez délivrer des gens esclaves même de possessions démoniaques. Il a relevé tous ceux qui croisaient sa route. Il n'a jamais renvoyé les gens à vide. Même quand ils n'avaient pas de quoi manger, de la nourriture physique, il a multiplié les pains et les poissons pour toutes ces personnes. Il a mis la puissance de Dieu au service de la misère des hommes. Ça, c'est l'amour en action. Et pourtant, devant tant de miracles, on peut dire, oh, sans doute qu'il a convaincu des milliers, des millions de gens. Non, pas du tout. La Bible nous dit, malgré tous les miracles, le grand nombre de signes miraculeux que Jésus a fait devant eux, ils ne croyaient pas. Mais l'amour ne manque pas de miracles. Les actes suffisent. Les actes suffisent, simplement. Jésus n'a fait aucun miracle pour la Samaritaine. Vous avez remarqué, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de multiplication de l'eau, etc., de la cruche ou d'autres signes miraculeux. Pour montrer qu'il aimait cette femme, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il lui a révélé le fond de son cœur. C'est comme ça qu'il a montré son amour. Et pourtant, malgré tout le bien que Jésus a fait, les hommes n'ont pas voulu de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. La Bible dit, l'Évangile nous dit dans Jean 3, 19, « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. » Nous ne voulons pas de Jésus parce qu'il jette une lumière sur notre vie et nous sommes peut-être attachés à notre péché, même si nous savons que c'est quelque chose qui nous pousse vers la mort éternelle, mais nous ne savons pas, nous ne voulons pas en être délivrés. Quand Jésus est venu sur la terre, il savait bien que les gens le mettraient à mort. Il était d'ailleurs venu pour cela et il est venu quand même. Alors pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Parce qu'on peut donner tout ce qu'on a, mais on n'a pas vraiment aimé tant qu'on ne s'est pas donné. Et Jésus a voulu véritablement démontrer l'amour. Dieu nous a offert ce qu'il avait de plus précieux. Il s'est donné en la personne de son Fils. C'est un acte d'amour total, mais il n'y avait pas aussi d'autres moyens pour satisfaire la justice de Dieu. Et Jésus-Christ a expliqué ce qui s'est passé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Tant aimé qu'il a donné. On ne peut pas aimer sans se donner, n'est-ce pas ? Qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance, donc c'est bien une affaire de confiance, de foi, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Et vous pouvez mettre votre nom dans ce verset. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que si je place ma confiance en lui, j'échappe à la perdition et j'aie la vie éternelle. La croix où Jésus-Christ a été cloué, c'est la démonstration irréfutable, incontestable que Dieu nous aime. La Bible dit, voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Le Christ est mort pour nous, Romains 5:8. Et c'est ce prix ultime, c'est ce prix payé par Jésus-Christ, sa vie qu'il a donnée pour vous, pour moi, qui montre sa détermination à nous aimer, parce que rien ne l'a arrêté. Personne ne m'ôte la vie, a dit Jésus, je la donne de moi-même, c'est mon choix, c'est un choix d'amour. Il n'y a pas d'autre moyen que ces gens soient changés, que leur vie soit transformée, que mon amour pénètre dans leur cœur, si quelqu'un ne paye pas pour eux le prix que leur péché demande. C'est à la croix, alors que cette croix était peut-être élevée à 2-3 mètres du sol, et pourtant, sur cette croix, c'est le point culminant de l'amour. C'est là que Jésus a élevé l'amour à son plus haut niveau. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, a dit Jésus. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voulez-vous devenir l'ami de Jésus ? Et Jésus savait de quoi il parlait. C'est Jésus qui nous permet de connaître l'amour poussé à la perfection. Je crois que si Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix, je suis convaincu, parce que la Bible dit aussi, nous n'aurions pas pu connaître ce qu'est l'amour véritable. Et la Bible dit, voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. 1 Jean 3,16. Et cette plongée du Christ dans l'univers glacé, horrible, désespérant de la mort, nous fait découvrir la dimension extrême de l'amour. À la croix, Dieu a pu satisfaire sa justice. Il a puni le péché, mais il n'a pas puni les coupables. Les coupables que nous sommes, il nous a pas fait subir le châtiment que nous méritions. Le châtiment qui nous donne la paix, nous dit la parole de Dieu, est tombé sur lui. Il a démontré son amour en subissant lui-même la punition que nous méritions. Dieu a puni l'innocent, il a fait grâce aux coupables. Et le sacrifice de Jésus-Christ permet tout à la fois d'être juste et de manifester son amour dans tout ce qu'il y a de plus grand et de nous déclarer justes. Parce que quelqu'un a payé pour nous. Alors si ce n'est pas ça de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Mais l'amour n'est pas resté prisonnier de la tombe. L'amour est fort comme la mort, nous dit le Cantique des Cantiques. Jésus-Christ a triomphé de la mort. La mort a dû capituler devant l'amour. La mort a dû déposer les armes devant l'amour. Et parce que Dieu a considéré ce sacrifice comme étant valable, suffisant, il a ressuscité son Fils. La Bible nous dit dans Romains 4, 25, le Seigneur Jésus a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Alors qu'allez-vous faire maintenant ? Qu'a fait la Samaritaine ? Elle a déposé sa cruche au pied de Jésus, sa cruche qui est le symbole de sa vie gâchée, le symbole de cette eau qui est insuffisante pour nourrir sa vie, le symbole de ses amours déçus, le symbole de tout son péché. Elle a déposé cette cruche au pied de Jésus. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire dans quelques instants, de déposer votre péché au pied de Jésus. Et elle veut changer de vie, elle veut changer de comportement, elle veut puiser à la source de la vie. Alors elle accepte l'invitation du Christ, et que toute la Bible va répéter, jusque l'avant-dernière page, l'avant-dernier chapitre, où il est dit à celui qui a soif. Est-ce que vous avez soif ce matin ? Soif d'amour. À celui qui a soif, nous dit Jésus, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Apocalypse 21, verset 6. Et cette femme ne sera plus jamais la même. Et l'effet de sa découverte du Christ est immédiat. Cette femme qui était mise au banc, qui était exclue, qui était rejetée par ses contemporains, décide de renouer des relations. Sans doute qu'elle était aigrie, qu'elle était amère, que toute cette haine accumulée contre elle. Elle ne voulait plus les voir. Eux ne voulaient pas la voir, mais elle non plus. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans la ville, elle court, elle va dire « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» On ne peut plus l'arrêter. Il faut que tout le monde apprenne la bonne nouvelle. Chers amis, le moment est venu pour vous de prendre une décision la même que pour la Samaritaine. Est-ce que vous voulez expérimenter l'amour de Dieu pour vous, révélé à la croix de Jésus-Christ? Vous avez essayé d'aimer sans lui. Est-ce que vous voulez essayer maintenant d'aimer avec Jésus? Comment faire? Eh bien, tout simplement, premièrement, reconnaissez votre péché devant Dieu. On l'a dit tout à l'heure. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous délivrer de tout péché. Acceptez de vous voir tel que vous êtes, comme Jésus a révélé à cette femme ce qu'elle était. Reconnaissez les ravages du péché dans votre vie, de cette relation brisée avec Dieu qui vous a amené à des relations égoïstes, à de la pureté, à de l'infidélité, à de l'orgueil, etc. Il ne s'agit pas de s'apitoyer sur vous-même, mais de réaliser simplement la gravité du péché pour Dieu et la gravité du péché dans ses conséquences. Deuxièmement, reconnaissez votre besoin de salut en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, nous dit l'apôtre Pierre dans le livre des Actes. Sans Dieu, vous êtes comme un bateau ivre. Vous êtes ballotté à droite, à gauche, vous dérivez, piégé ou piloté par vos sentiments, sans espérance, sans but. Vous avez non seulement besoin d'être délivré du châtiment éternel, c'est pas seulement ça là, ce que Jésus nous propose. Vous savez, beaucoup de gens croient que la foi, c'est être délivré, d'avoir son ticket d'entrée pour le paradis, éviter d'aller en enfer. C'est pas seulement ça. Jésus-Christ ne nous propose pas seulement une vie à vivre dans l'éternité, il nous propose une nouvelle vie à vivre dès maintenant, délivrée de l'emprise du péché et remplie de son amour. Reconnaissez votre besoin de salut en Jésus-Christ. Reconnaissez votre péché devant Dieu. Puis troisièmement, faites confiance à Jésus-Christ, tout simplement. Faites-lui confiance. La foi, c'est ça. Croire que la mort de Jésus-Christ sur la croix est suffisante pour vous délivrer de vos péchés. Croire que c'est pour vous aussi, personnellement, que Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Et que cette résurrection a signé une victoire totale de Jésus-Christ sur le péché, sur la mort. Enfin, quatrièmement, décidez tout simplement, c'est une décision, décidez de changer de comportement. Demandez à Dieu de vous changer. Vous n'aurez pas la force de changer. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, bien, c'est la source qui nous remplit. C'est comme ça que Dieu nous remplit. Il met son esprit en nous simplement lorsque nous acceptons de faire confiance. Mais c'est aussi une décision ferme de changer de comportement, d'opinion, d'attitude par rapport au péché. C'est un engagement. Ça s'appelle la repentance. C'est ce que le Seigneur attend de nous, de vous. J'ai eu l'occasion de prendre cette décision, moi aussi, je ne l'ai jamais regrettée. Est-ce que vous voulez le faire maintenant? Je vais vous en donner l'occasion. Nous allons prier, prendre un moment de face à face, devant Jésus, comme cette femme. Essayez d'oublier toutes les autres perturbations, peut-être, de votre esprit. Vous êtes face à face à Jésus, avec Jésus, comme l'était cette femme. Et dans votre cœur, il vous dit tout ce que vous avez fait. Et les autres n'ont pas besoin de le savoir, mais vous, vous le savez. Et il met le doigt sur pas mal de choses pour lesquelles vous avez honte, que vous regrettez, toutes les blessures infligées, les blessures reçues, tous les actes, les mots, les pensées que vous regrettez, tous ces chemins que vous avez pris, qui n'étaient pas les voies de Dieu, tout cela. Vous êtes face à Jésus, non pas face à un juge, mais face à quelqu'un qui vous aime, qui veut vous montrer ce que vous faites pour se révéler à vous comme votre sauveur. Nous allons donc prier, puis je vous demanderai de, si vous allez prier avec moi, si vous avez pris cette décision, je vous demanderai d'en témoigner publiquement, comme l'a fait cette femme lorsqu'elle est allée vers la ville, témoigner de son engagement vers Jésus. Je vous demanderai simplement, par un geste discret, de lever votre main quelques instants pour manifester votre décision. Vous pouvez, si vous ne savez pas comment prier, répétez les mots que je vais dire, ou sinon vous pouvez utiliser vos propres mots. Dites-lui simplement, « Oui Seigneur, mon cœur est vide. » Oui, Seigneur Jésus, mon puits de sentiments est vide. J'ai vécu toute une série de relations sentimentales toutes décevantes, incapables de construire une relation d'amour sur le long terme. Et Seigneur, je n'avais pas réalisé jusqu'à ce jour que tous les échecs de ma vie, échecs sentimentaux, échecs personnels, étaient dus au fait, Seigneur, que je me suis éloigné de toi. Qu'au lieu, Seigneur, de suivre tes voies, tes commandements, j'ai décidé librement de te désobéir, de m'éloigner. Je n'avais pas vraiment conscience, Seigneur, que j'étais en fait, par cette attitude, en rébellion contre toi, mais c'est la réalité. Je me reconnais ce matin tel que je suis vraiment, pécheur, pécheresse, devant toi. Seigneur, je ne peux rien te cacher. Tu lis dans mon cœur et dans mes pensées, comme dans un livre ouvert. Alors, Seigneur, ça ne regarde que toi et moi. Je me reconnais tel que je suis. Je peux être transparent devant toi. Je peux être sincère, je peux être authentique. Parce que tu m'aimes, tu ne me juges pas. Ce n'est que dans l'éternité que tu seras notre juge. Mais maintenant, tu te présentes à moi comme mon sauveur. Et je saisis cette opportunité. Parce qu'à la croix, tu as démontré ton amour. Tu es mort pour moi, personnellement, sur la croix. À cause de mon péché. C'est mon péché qui t'a cloué sur la croix. Aussi sûrement que le péché des autres, mais le mien aussi en particulier. Tu as dû subir ce châtiment que je méritais pour que j'en sois délivré, pour que je n'aie pas à le subir, pour que j'aie la vie, que je passe de la mort à la vie. Et je saisis cette opportunité, Seigneur, je crois vraiment que tu es mort et ressuscité pour moi, que tu es vivant, que tu es au ciel, que tu reviens bientôt, et que tu me donnes l'occasion de vivre une vie nouvelle, ici, maintenant, rempli de ton amour. Seigneur, je veux que tu me débarrasses progressivement de tout ce qui fait les souillures de mon passé, les souillures du péché, reconstruire en moi la capacité d'aimer, de créer des relations. Seigneur, pour cela, je renonce au péché. Je me repens. Je renonce, Seigneur, à ma vie d'avant. Désormais, Seigneur, je suis une nouvelle créature, une nouvelle création en Jésus-Christ. Tu fais de moi une personne nouvelle, je le crois et je l'accepte. Et à partir d'aujourd'hui, je sais que par ta grâce, par ton amour bienveillant, Seigneur, parce que tu as dit que tu seras avec moi tous les jours, eh bien, je sais, Seigneur, que je peux commencer une nouvelle vie. Tout est possible pour celui qui croit. Je crois, Seigneur. Je viens à toi tel que je suis. Maintenant, Seigneur, accepte-moi comme ton enfant. Je te demande pardon, change ma vie. Et alors que nous restons recueillis, les yeux fermés, la tête baissée, je voudrais vous demander, y a-t-il quelqu'un qui maintenant fait cette prière avec moi? Si c'est le cas, levez votre main maintenant, quelques instants. Oui, vous pouvez baisser votre main. 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 Y a-t-il encore quelqu'un qui a été touché par l'amour de Jésus-Christ? Quel amour! Quelle opportunité nous avons de reconstruire notre vie avec cet amour-là comme fondation. Chers amis, si vous entendez sa voix, nous dit la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur, ne vous fermez pas à cet amour. Plusieurs se sont ouverts, simplement, dans la sincérité, dans la transparence vis-à-vis de Jésus-Christ. Ils ont dit, oui, moi, Seigneur, je me connecte à ton amour. J'accepte ton amour. Y a-t-il encore d'autres qui veuillent faire cette expérience ce matin? Alors, si c'est le cas, oui, vous pouvez baisser votre main. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Simplement, oui, vous pouvez baisser votre main. Votre main se lève. Quelques instants, je ne vais pas prolonger. Notre but n'est pas de jouer sur les sentiments, pas du tout. Mais la Bible dit, et Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, j'aurai une relation avec lui et lui avec moi. Alors une dernière fois, y a-t-il encore quelqu'un qui veut cette relation d'intimité avec Jésus-Christ et reconstruire sa vie sur lui? Tout simplement, si vous ne l'avez pas encore fait, votre main se lève, oui, vous pouvez baisser votre main. Quelques instants, oui, vous pouvez baisser votre main. Y a-t-il encore quelqu'un? Nous terminons. Ô Seigneur Jésus, merci pour ton amour tellement grand. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants que tu nous aies retirés de la boue de notre péché, que tu nous aies donné, Seigneur, cette capacité d'aimer, que tu te sois révélé à nous, que tu nous aimes d'un amour inaltérable. Seigneur, merci pour ces nouveaux frères et sœurs qui ont pris cette décision de te recevoir comme leur Sauveur et Seigneur, et par conséquent d'avoir Dieu pour Père. Et comme nous aussi nous avons Dieu pour Père, bien nous les accueillons comme des frères et sœurs dans l'Église qui est la famille de Dieu. Et nous sommes vraiment reconnaissants. Et la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Alors nous réjouissons ce matin avec les anges dans le ciel pour ceux qui ont pris cette décision pour toi, Seigneur. Parce qu'une nouvelle vie commence pour eux. Et nous voulons vraiment te les remettre, Seigneur. Tu nous as assuré de ta présence jour après jour. Et nous savons que c'est vrai, tu nous as jamais fait défaut, Seigneur. Jamais fait défaut. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais tu connais chacune de ces personnes avec son passé, avec ses difficultés, avec ses blessures. Il y a besoin de guérison. Il y a besoin de pardon encore. Seigneur, aide-les à grandir dans la foi avec ta parole, jour après jour. Aide-les aussi à s'intégrer dans l'Église, dans ta communauté, Seigneur, pour pouvoir bénéficier des relations fraternelles. Seigneur Jésus, nous te remettons chacune de ces personnes selon ses besoins. Parce qu'elle... chacune est précieuse à tes yeux et précieuse pour nous aussi. Te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.